Merci Clémence de nous avoir conduits pendant ce temps de culte. Quelquefois, je me dis, on pourrait s'arrêter là, tellement on a vécu déjà de belles choses et il faudrait simplement méditer ce que nous avons entendu, ce que nous avons dit. Mais voilà, il y a un temps de prédication maintenant. Le temps de prédication, c'est encore un temps où nous offrons nos cœurs à Dieu, donc c'est encore le temps de culte, bien sûr. Et tout de suite, je vous invite à écouter trois brèves lectures. La première dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, nous lirons les versets 11 à 13. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour les méchants, ne prolongera pas ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Donc je pense que vous devinez déjà sur quoi mon message va porter ce matin. Je lis encore, nous lisons encore dans l'évangile de Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, juste après la résurrection, chapitre 28, versets 5 à 8. Donc des femmes sont allées au tombeau, et un ange leur apparaît, qui a un aspect comme celui de l'éclair, un vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblent de peur et deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Dernier verset dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, le premier verset. Et là, nous avons entendu les mots de ce verset dans notre liturgie tout à l'heure. Je lis ce que Paul dit aux Thessaloniciens. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. » Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et je retiens notamment cette formule, vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Et on peut comprendre que quand Paul dit vous avez appris de nous, ça veut dire de l'enseignement qui a été donné, mais aussi de la conduite, de l'attitude, la manière d'être, notamment avec les autres. Donc vous avez compris le thème de cette méditation ce matin, c'est la crainte de Dieu. Alors certains disent, oui, l'amour parfait bannit la crainte, donc plus de crainte. Mais l'amour parfait, il est où? Il est où sur la terre? Voilà. Par ailleurs, la crainte de Dieu n'est pas le contraire de l'amour. La crainte de Dieu, je vais le montrer, enfin je vais le rappeler dans quelques instants, la crainte de Dieu accompagne l'amour. La crainte de Dieu est quasiment une autre manière de dire l'amour de Dieu ou l'amour pour Dieu. Alors il n'est pas très facile aujourd'hui d'évoquer ce thème de la crainte de Dieu. Certains vont dire, mais ça fait un peu rétrograde, on n'est plus au 19e siècle, les mentalités ont évolué. Et puis, que vont penser les autres? Eh bien, précisément, cette question, que vont penser les autres, c'est la question qui habite le cœur de celui qui ne craint pas Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu ne se pose pas cette question. Il cherche à avoir un bon témoignage autour de lui. Mais que vont penser les autres? Ça passe au-dessus de sa tête. Quand Saul de Tarse a rencontré Jésus, qu'il a été, pour dire, jeté à terre, ébloui, aveuglé, il n'a pas cherché des excuses. Il n'a pas dit « c'est ma femme ». Il n'a pas dit, d'ailleurs, il n'avait pas de femme, peut-être. Il n'a pas dit, ce sont mes parents. Il n'a pas dit, ce sont mes voisins. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? Et Jésus lui répond, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. La crainte de Dieu, c'est la même chose que le désir impérieux de faire enfin la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable. Alors, quelques personnes, quelques traductions de la Bible ont pensé bien faire en traduisant la crainte de Dieu par le respect de Dieu. Pas complètement, c'est pas complètement faux. Enfin, la crainte de Dieu, c'est quand même autre chose que simplement le respect de Dieu. Même si le respect de Dieu, c'est déjà beaucoup. Par exemple, je peux respecter une personne sans être toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Mais si je crains Dieu, je ne me permettrai pas d'être en désaccord avec ce qu'il dit. Impossible. On l'a chanté dans un des chants tout à l'heure. Hein, voilà, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'était la nourriture de Jésus, c'est la nourriture du chrétien. Nous nous souvenons que Dieu a mis Abraham à l'épreuve, après la naissance d'Isaac, en demandant à Abraham d'aller sacrifier son fils unique, de l'offrir en sacrifice. Je lis ce que dit le texte, Genèse chapitre 22, « Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. » Alors un ange de l'Éternel lui dit, « N'avance pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » On pourrait imaginer que Dieu a dit, ou a pensé, « Maintenant on va pouvoir continuer avec Abraham, la grande aventure de la foi. » Et nous voyons que la crainte de Dieu, avec cet épisode notamment, n'est pas seulement un sentiment qui s'ajoute aux autres, mais c'est le sentiment qui inspire les autres. Y compris la reconnaissance, évidemment l'obéissance, y compris l'adoration, y compris le témoignage, et la fidélité, et la persévérance. La crainte de Dieu n'est pas un sentiment parmi les autres, c'est le sentiment qui inspire les autres. Je dirais que c'est le sentiment qui est inspiré par Dieu et qui va inspirer les autres sentiments, les autres attitudes, le comportement, tout simplement. Et s'il manque la crainte de Dieu, je pense que c'est irrattrapable. Et donc là, il y a un rendez-vous qui nous est proposé, je dirais qui nous est imposé en un sens, et c'est pourquoi la crainte de Dieu est si importante dans la vie du chrétien. Elle est importante aussi aux yeux de Dieu. Elle plaît à Dieu. La crainte de Dieu, dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un enfant, est agréable à Dieu. C'est vraiment comme un parfum de bonne odeur. C'est la preuve, on pourrait dire, c'est la manifestation du fruit, de la conséquence de l'œuvre de la grâce dans un cœur, de l'œuvre de la lumière dans un cœur. Dans le psaume 103, très beau psaume 103, nous apprenons que Dieu s'attache à celui qui le craint. Celui qui craint Dieu s'attache à Dieu et Dieu s'attache à lui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et donc on peut penser que si Dieu a son regard sur toute chose sur cette terre, il a un regard particulier sur ceux qui le craignent, sur la maison de ceux qui le craignent. Au début du livre de Job, vous rappelez peut-être, Dieu dit à Satan, étonnant épisode, Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu
et se détournant du mal. Et ça peut faire envie, hein. Je trouve que ça peut faire envie. Donc la crainte de Dieu, je le redis, c'est le désir ardent de faire la volonté de Dieu, de plaire à Dieu par amour pour lui. Et donc il n'y a pas d'un côté l'amour pour Dieu et de l'autre la crainte de Dieu, la face positive, la face négative, ce n'est pas cela. C'est la même, c'est presque un autre mot pour dire la même chose. Ce n'est pas la peur qui paralyse, comme chez le serviteur craintif, vous savez, qui a reçu un talent et qui a dit « Je savais que tu es un maître exigeant, alors j'ai caché le talent et je te le rends. » Voilà, lui il avait peur, ce n'est pas du tout cela. La peur paralyse, la crainte de Dieu permet au contraire d'avancer coûte que coûte. Elle dit au contraire un attachement très grand vis-à-vis de Dieu. On le voit chez le prophète Jérémie. Je lis cette parole de Dieu dans la bouche, sous la plume du prophète Jérémie. Dieu dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et donc, vous voyez, c'est pas une crainte de distance, c'est une crainte au contraire de proximité. Voilà. Cela signifie que ce peuple comprendra qu'il n'y a pas un autre lieu aussi désirable sur la terre que celui-là. Celui où le juste, dans la crainte de Dieu, exprime son amour pour Dieu par l'obéissance, par la fidélité, par la persévérance. On pourrait dire que celui qui craint Dieu est délivré du désir de chercher ailleurs. Car c'est ici seulement que son âme sera rassasiée de la bonté du Dieu vivant. La crainte de Dieu, on l'a entendu déjà une fois ou deux, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voilà, c'est écrit à plusieurs reprises, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Saul n'a pas trouvé des excuses pour dire quand même, il n'y a pas que moi, et d'autres font pareil, ou même pire, enfin, c'est pas si grave, c'est juste une erreur. Non, la crainte de Dieu, voilà. Job se détournait du mal. C'était un homme intègre. Pas simplement parce que c'était un homme moral, parce qu'il craignait Dieu. Le chrétien ne dit pas principalement est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais est-ce que ça plaît à Dieu ou est-ce que ça irrite Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Par amour pour lui, peu importe ce que pensent les autres. Et là, je vais rappeler ici ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. C'est ce qui fait dire à un enfant de 8 ans, ou de 12 ans, ou de 14 ans, dans la cour de l'école, à ses petits camarades, oui, 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 là, non. Il faut du courage. Ce n'est pas facile. Pas facile pour les adultes non plus, selon où ils sont. Il faudrait dire oui tout le temps, pour faire équipe, pour être avec les autres. Celui qui dit non tout le temps, ça ne va pas. Mais celui qui dit oui tout le temps, ça ne va pas non plus. Il y a une forme d'intelligence qui consiste à pouvoir dire, dans certaines circonstances, oui, 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 mais là non. Mais là non. Pourquoi ? Parce que Dieu n'aime pas. Et je préférerais mourir que de déplaire à Dieu et que de l'offenser et que d'attrister le Saint-Esprit. Il y a dans nos cœurs des vides que le mal cherche à remplir. Vous voyez, quand nous sommes tentés par le mensonge qui nous promet de belles choses qui sont fausses, qui sont porteuses de mort et non pas de vie. Quand nous sommes tentés, c'est qu'il y a un vide en nous que le mal vient chercher à rejoindre et à combler. N'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi l'assurance de l'amour de Dieu produit la haine du mal. Quand Paul a rencontré Jésus, je crois pouvoir le dire comme cela, il a été délivré d'un seul coup de sa folie et de ses tentations et de sa vanité et de son désir de pouvoir et de plaire et d'avoir je ne sais pas quoi encore. Il a été délivré de tout orgueil, de toute vanité, de tout mensonge. Terminé pour l'apôtre Paul. Bon, terminé, peut-être il a encore combattu à diverses reprises. Enfin, il n'est pas retombé là où il était, n'est-ce pas? Il n'a pas recommencé sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes travers, les mêmes bêtises. Sinon, on n'avance pas, vous comprenez? On n'avance pas, il faut avancer quand même. Et pour avancer, il faut bien remporter quelques victoires. Et donc, la victoire, elle survient quand on peut dire, là, c'est terminé. Là, c'est jamais plus. Et on peut dire ça à un enfant dans une maison. Mon enfant, plus jamais cela. Plus jamais. Et on le convainc. Et donc, il y aura un autre combat, mais plus celui-là. En tout cas, alors est-ce que ça veut dire que le chrétien qui craint Dieu ne pêche plus? Voilà ce que je répondrai. Il pêche beaucoup moins, déjà. Quand même. On peut le dire, il pêche moins. Il a des épreuves, il a des moments difficiles, mais il pêche moins. Il a des moments difficiles pour d'autres raisons, mais pas à cause des péchés qui reviennent sans cesse, de manière récurrente. Et puis, quand il a péché, il s'en rend compte tout de suite. Et quand il s'en rend compte, il ne fait pas semblant qu'il n'a rien vu. Et il demande pardon, et il s'humilie, et il remet sa main dans la main de son Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, la sainteté et l'amour de Dieu ont ouvert les yeux de celui qui est devenu l'apôtre Paul. La sainteté et l'amour de Jésus. Pas de sainteté sans amour. Pas de sainteté sans amour. Pas d'amour sans sainteté. Il y a dans la Bible une catégorie de personnes que je trouve assez passionnante, tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament, depuis Rahab, la prostituée de Jéricho, jusque dans le Nouveau Testament, une catégorie de personnes qu'on appelle les craignants Dieu. C'est étonnant, cela. On pourrait dire... Ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils ne le connaissent pas comme nous pouvons le connaître. Ils ne sont pas encore des disciples de Jésus. Ils ont beaucoup de lacunes dans leur connaissance de l'Écriture. Ils n'ont pas étudié auprès des maîtres de la loi. C'est pas sûr qu'ils chantent des cantiques même encore tous les dimanches, n'est-ce pas? Mais Dieu a déjà déposé dans leur cœur la crainte de Dieu. Et comment ça se voit? Ça se voit par une forme d'intelligence qui éclaire leurs pensées et qui les conduit à poser les mêmes gestes, à faire les mêmes choix que feront des chrétiens de longue date, alors qu'ils ne sont pas instruits. C'est étonnant, c'est surprenant. Dieu a déjà touché leur cœur et les a déjà rendus sensibles. Ils sont déjà intelligents, déjà ils comprennent. Ils ne sont plus insensés, ils ne s'associent plus aux moqueurs. Alors c'est le cas de Rahab, la prostituée. Voilà, Rahab, profession prostituée, lieu d'habitation Jéricho, chez les païens. Rahab accueille les espions hébreux, et avant qu'ils s'endorment sur le toit, elle va les voir et elle dit « Je sais que l'Éternel est avec vous ». C'est étonnant, n'est-ce pas? Comment elle le sait? Le peuple d'Israël est encore en train de douter de ça. Mais elle le sait. Et comment elle le sait? Dieu le lui a dit. Et pourquoi Dieu le lui a dit? Parce que Dieu l'a choisi et a mis dans son cœur la crainte de Dieu. C'est une prostituée. C'est comme cela. Elle est dans la généalogie de Jésus quand même. Et il y a comme ça toute une série de personnages, de personnages dans la Bible qui se dévoilent comme étant des craignants Dieu. Et de grandes promesses leur sont données. Alors je pense au centenier, juste un mot sur le centenier. Le centenier, donc le capitaine, on pourrait dire, romain, de Luc 7. Je pense souvent à lui. Voilà un centenier, un homme qui commande une centaine de soldats, n'est-ce pas? il a un serviteur malade, il pourrait dire, bon, je vais en chercher un autre. Voilà. Non, il se soucie de son serviteur malade. Et les chefs des Juifs, les anciens des Juifs, disent à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, la guérison de son serviteur, parce qu'il aime notre nation. Comment se fait-il qu'un centenier romain qui occupe une terre soumise aime la nation juive? C'est étonnant, n'est-ce pas? Les anciens des Juifs disent même, il a construit notre synagogue. C'est pas la vocation d'un centenier romain, mais lui, il l'a fait. Et donc, par son attachement à ce peuple saint, il exprime maladroitement son attachement au Dieu de ce peuple. Et on le voit par la bonté qu'il exerce qu'il exprime vis-à-vis de son serviteur. On le voit aussi parce qu'il dit à Jésus, je ne me suis pas cru digne d'aller moi-même te voir, j'ai envoyé mon serviteur. Et je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est étonnant, n'est-ce pas, de la part d'un officier. Et il dit encore, et c'est ça qui va étonner Jésus plus que tout, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à mon serviteur, fais ceci. Et toi, si tu dis à mon serviteur, sois guéri, sera guéri. Ça veut dire, tu es soumis à Dieu. Tu es l'envoyé de Dieu et tu as l'autorité de Dieu qui t'envoie. Le texte de Luc nous dit, Jésus admira la foi du centenier. Et Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et là, on voit que la crainte de Dieu, vraiment, non seulement est le commencement de la sagesse, c'est déjà beaucoup, mais c'est le commencement de la connaissance. Le texte biblique dit le commencement de la science, et ça veut dire la connaissance, la compréhension juste des choses, non pas forcément celle des philosophes et des experts. Attention aux experts, frères et sœurs, qui ont une grande connaissance sur un sujet donné et qui méprisent la parole de l'Éternel, qui ne craignent pas l'Éternel. Attention à ces experts-là qui ont 100% vrai sur un domaine qui est le leur et qui en même temps s'égarent parce qu'ils oublient des choses très importantes par ailleurs. Attention aux experts, épiloguer et développer ce point, je ne le fais pas maintenant. Je mentionne encore un autre craignant Dieu, un des deux brigands sur la croix. Profession brigand. Voilà, il va mourir dans quelques heures ou quelques minutes, je ne sais pas. L'autre brigand insulte Jésus. L'autre brigand insulte Jésus. Et celui-là, vous rappelez ce qu'il dit ? Ne crains-tu pas Dieu ? C'est étonnant un brigand qui dit ça, hein ? En général, un brigand dit « je n'ai rien fait ». C'est pas moi. C'est pas ma faute. Mais lui, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous avons ce que méritent nos crimes. Mais lui n'a rien fait. Comment il le sait? Qui lui a dit? Et puis, cette invocation extraordinaire, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Il dit ça à un mourant. Il dit ça à un homme qui n'a ni apparence, ni éclat, qui est semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Et Jésus lui répond, comme vous le savez, la parole qu'on aimerait entendre tous, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors peut-être que ces remarques vous rendent attentifs au prix que représente pour Dieu, mais aussi pour nous dans l'Église, la crainte de Dieu. Et s'il fallait encore un mot pour vous convaincre, je rappellerai que Jésus, qui pourtant avait un amour parfait, très certainement, Jésus avait la crainte de Dieu. C'est écrit, le prophète Ésaïe le dit, je vais terminer avec cela, le prophète Ésaïe le dit au chapitre 11, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Isaïe le père de David, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. C'était l'atmosphère spirituelle de Jésus. Voilà, j'avais un dernier point sur la joie. Vous l'aurez sur mes notes écrites. Je vais m'arrêter là, je ne veux pas être long. Simplement, on se rappelle que quand les femmes ont quitté le tombeau, elles avaient à la fois une grande crainte et une grande joie. et ça ne les a pas paralysés. Elles ont couru annoncer la nouvelle aux disciples. Et encore dans le livre des Actes, quand on voit le vécu de l'Église primitive, la crainte s'emparait de tous et ils prenaient leur repas avec simplicité de cœur et avec joie. Et donc, s'il fallait encore un élément de plus pour nous convaincre que la crainte de Dieu est désirable par-dessus tout, non seulement elle n'est pas contraire à la joie, mais elle est favorable à la joie du royaume de Dieu, tout simplement. Que Dieu fasse grandir dans nos cœurs la crainte de son nom et l'amour de son nom. Je vais prier. Seigneur, avec ce survol du passage de l'Écriture, nous avons vu combien cette attitude appelée la crainte de Dieu est inscrite dans ces pages, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et cette crainte de Dieu est associée à des choses tellement belles et tellement bonnes qu'on pourrait se demander s'il faut encore s'occuper d'autre chose. Peut-être pas. Seigneur, par amour pour toi, que la crainte de te déplaire, que la haine du mal et que l'attachement à toi, à ton amour, à ton alliance, grandisse et nous fasse avancer dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Tu nous gardes ensemble, Seigneur, sous ton regard. Tu nous rattrapes si nous nous égarons, tu nous relèves si nous tombons. Tu touches nos cœurs et tu nous transformes à l'image de Jésus. Amen.